Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Che fai? Aggredisci.
Ma sta fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, vous qui êtes sur la pente douce des repères chamboulés, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en délicieuse compagnie, un peu comme toujours, mais c'est à chaque fois renouvelé, avec Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Sophie.
Olivier, salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
Manon, qui est là aussi dans Cinémascope, salut Manon.
Salut Sophie.
Et Mathieu.
Salut.
Évidemment, que serait Cinémascope sans Sylvain à la réalisation ?
Rien. Salut.
Ouais, rien. Profitons-en. Profitons-en, la semaine prochaine, il ne sera pas là. Que se passera-t-il ?
Oh,
bah rien.
Bah,
rien. Et on est aussi au téléphone avec Patrick, qui vient nous parler de l'inondation. Donc Patrick Duvivaret, directeur du cinéma Le Vivarais, pardon, à Privas, et qui vient nous parler de l'inondation, film d'Igor Minaev, qui sera projeté donc, vendredi prochain, en présence du réalisateur et de son actrice principale, qui n'est autre que Isabelle Huppert. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie, bonjour à toute cette compagnie délicieuse. Enfin, c'est ce que tu as dit, donc
effectivement.
J'adhère.
Mais oui, mais
bien
oui,
que
oui.
Tu ne les vois pas.
Non, mais bientôt, tu seras parmi nous, ici, dans les studios, avec nous. Alors, Patrick, quelle est cette bonne nouvelle, vendredi prochain, donc Isabelle Huppert et Igor Minaev, pour l'inondation. Alors, pourquoi vous avez décidé de reprojeter ce film ?
Alors, déjà, bon, c'est vrai que c'est un film que j'ai découvert, en fait, quand... j'ai organisé une tournée autour d'un film qui s'appelle La cacophonie du Donbass pour un événement, triste événement qui était donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est un film que j'avais mis de côté parce que je comptais le passer, donc La cacophonie du Donbass. Et il se trouve que je l'ai pas exhumé parce qu'il était sorti 2 années auparavant, mais de manière assez confidentielle. J'ai organisé une tournée, j'ai rencontré donc Igor Minaev, avec qui je suis devenu ami, et j'ai découvert en fait toute sa filmographie, et puis c'est vrai que je suis tombé vraiment... j'ai été totalement séduit par ce film, enfin qui m'a totalement impressionné, quoi, qui est un film brillant, que je considère vraiment comme un grand film. Et donc j'ai appelé de tous mes voeux. Alors je ne sais pas si le fait d'avoir appelé a pu susciter. Oui, je pense qu'effectivement il y a eu un engouement autour d'Igor par rapport à la cacophonie du Donbass, étant donné qu'il est ukrainien. Et donc on s'est intéressé un petit peu à la filmographie d'Igor. Et dans cette filmographie, bien évidemment, donc figurait ce film extraordinaire qui est l'Inondation, qui a bénéficié d'une sortie assez confidentielle. Il est sorti en 93, hein, je ne me trompe pas. Et c'est un film qui avait été produit par Toscan Duplantier et distribué par Toscan Duplantier. Et la société de Toscan Duplantier, dont je ne me souviens plus le nom, a fait faillite cette année. Donc le film avait bénéficié quand même d'une sortie assez confidentielle. Et c'est le mari d'Isabelle Huppert, en fait, Ronny Chama, qui est le directeur des films du Camélia, donc producteur et distributeur, lui aussi, et qui a effectivement, sur l'insistance aussi de sa femme, et puis peut-être qu'en écho lointain à mon insistance, puisque j'ai été en contact un peu avec tout le monde, avec les films du Camélia, ce film est ressorti, et donc pour le bonheur de tous, a été restauré en 2K, une restauration magnifique. Et voilà, donc je n'attendais que ça, je n'attendais que la ressortie du film, qui en fait est presque une sortie, parce que c'est un film qui est totalement intemporel, C'est un film qui n'a absolument pas pris une ride. Oui, peut-être sur son générique, effectivement, mais sinon, le reste, on pourrait très bien considérer que ce film bénéficie d'une sortie plus qu'une ressortie.
Mmh. Donc, ce sera une projection unique, donc seulement vendredi soir, le vendredi 26. Il y aura donc Igor Minaev et Isabelle Huppert. Juste un mot, c'était... facile de l'inviter?
Non, c'était pas facile du tout. Non, c'était très très difficile. Je suis passé par son agent.
Je suis mauvais esprit.
C'était une véritable aventure. Et bon, donc elle a des billets de train pour venir à Priva le 26 à 20h30, vendredi. Tant qu'elle n'est pas sur place, voilà. Bon,
tout
a
peut
priori,
arriver.
Il n'y a aucun problème, mais bon, tout peut arriver. C'était très très compliqué. Alors déjà, parce que c'est d'après ce que j'ai compris, c'est une actrice quand même qui se protège, ce qui est tout à fait légitime, mais en plus qui est très occupée et qui a une actualité extrêmement dense, puisqu'elle jouait Bérénice, donc... à Paris, ensuite à Naples, trouver une date, déjà il a fallu vraiment, bien évidemment, que je m'adapte à son calendrier et non l'inverse. Et donc oui, ça a été très très compliqué. Ouais, on peut dire que c'est une véritable aventure, j'ai failli vraiment renoncer. D'ailleurs, j'ai quasiment renoncé à un moment, ce qui a regonflé un petit peu son envie de revenir. Curieusement, ça a été totalement, l'effet a été inverse et assez inattendu. Ça a regonflé un petit peu son envie de venir à Priva. Igor a assisté à une représentation donc de Bérénice. Et Isabelle Huppert lui avait dit, tu passeras dans ma loge juste après. Et donc, c'était il y a à peu près 2 semaines de ça, on ne savait pas encore vraiment si elle allait venir. Et Isabelle Huppert a dit à Igor, de toute façon, on se voit bientôt en Ardèche. Donc là, j'ai caressé l'espoir plus que le caresser qu'effectivement elle viendrait. Et après, bon, ça a été, les ajustements étaient quand même un peu compliqués. Donc c'est
rendez-vous.
Très difficile.
Ouais. Rendez-vous donc vendredi 26. Si vous voulez aussi vous replonger dans l'univers de Minaev, Olivier, tu avais fait une interview avec lui puisqu'il était là lors des dernières rencontres des cinémas d'Europe et on vous a mis le petit lien pour voir cette interview sur Facebook et puis ce sera aussi sur le site de l'émission.
Oui, nous parlions de délicieuses compagnies. Là, Igor Minaev est quelqu'un de très 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 agréable à fréquenter, franchement.
Et donc, retrouvez-le vendredi à Priva, vendredi prochain, donc la semaine prochaine, le 26 à Priva, 20h30, pour la projection d'Inondation. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir présenté cette sortie, plus que cette ressortie. On reste avec Isabelle Huppert et une autre actualité.
What's your reason for your trip?
They are republishing my first book.
Are you a writer?
Yes and no. Vous travaillez avec mon éditeur?
Je suis votre éditeur.
Ah! Je le fais mal, c'est ça?
No one can open the windows. That's normal for safety reasons.
Safety?
Très honoré de faire votre reconnaissance.
Vous ne serez jamais seul.
Pourquoi hésiter avant d'accepter votre invitation? C'est presque irréel pour moi d'être ici.
Sidonie au Japon, d'Élise Girard, donc avec Isabelle Huppert, vous l'aurez reconnu. Je vais pas y arriver. Tsuyoshi Ihara, Auguste Diel. Tu es allé le voir, Olivier?
Oui, j'avais un peu peur, j'hésitais, parce que j'avais quelques expériences avec Isabelle Huppert au cinéma qui s'étaient avérées un peu désagréables. Si, ça arrive. Et là, donc, j'y allais un petit peu en marchant sur des œufs, mais j'ai bien fait d'y aller. J'ai vécu ça comme une expérience zen, pratiquement. Ça m'a replongé donc un peu dans les réflexions sur la pensée bouddhiste, taoïste. D'une certaine manière, bon, Sidonie est écrivain. Mm-hmm. Elle a par deux fois échappé de justesse à la mort. Et ça l'a troublé d'être encore en vie après deux accidents de la route dans lesquels elle a perdu d'abord ses parents, ensuite son mari. Ça l'a beaucoup troublée et elle a eu besoin d'écrire pour ça. C'est pour ça qu'elle est devenue écrivain. Et finalement, on arrive à un moment de sa bio, de sa vie, où elle est rescapée, mais elle l'a dit, elle n'a plus trop grand-chose à faire là, en général. Alors, soit elle glisse dans la dépression ou dans une espèce d'état d'esprit un peu désabusé, désinvolte, désabusé, comme ça. Ou alors il se passe quelque chose. Et là, il se passe quelque chose, son éditeur au Japon l'invite pour qu'elle vienne signer son premier livre, celui dans lequel elle avait raconté son survival. J'ai un aussi bon accent américain ou anglais que Isabelle Huppert, ça nous fait un point commun. Et donc, si vous voulez, elle rentre dans cette culture japonaise zen et elle est dans la situation un petit peu que souhaite l'éveillé, le Bouddha pour nous. C'est-à-dire, elle désire plus grand-chose ici-bas. Et donc, au lieu d'être dans la consommation, l'accaparement, la proaction, etc., et de ne saisir des choses que leur surface, comme le reproche Bouddha ou Lao Tzu, si vous voulez, débarrassée du désir, elle peut voir le réel dans toute son intensité, elle peut voir le réel dans toute sa diversité, dans toutes ses subtilités, le réel de ce monde ici, mais aussi le monde des morts, elle a un accès au monde des morts, son mari revient la voir. Je divulgage pas parce que c'est au début du film qui réapparaît. Et donc, sur fond de vide que promet la méditation taoïste, sur fond de vide, elle découvre le réel comme on le découvre par le haïku ou le jardin zen, etc.
Et cinématographiquement, tout ce que tu dis, c'est retranscrit ?
Oui, ouais, ouais. Et ça m'a fait un peu penser à Perfect Days. Alors c'est faire beaucoup d'éloges de Sidonie au Japon que de comparer avec la dernière fiction de Wenders, mais j'y vais. Après tout, il y a une... Élise Girard, qui réalise le film, il faut quand même le dire, Élise Girard est une grande, grande amatrice de cinéma. Elle a travaillé dans le cinéma, dans les salles, etc., auprès des distributeurs, etc. C'est une grande amatrice de cinéma qui nous partage quelque chose de sa vie personnelle aussi, là. Et donc, c'est bien filmé, c'est bien monté, ça joue avec différents style d'image jusqu'au quasi burlesque, jusqu'au surréalisme, puisque son mari décédé revient, mais bon, il est pas transparent, il est comme monté comme ça à côté d'elle, et ça donne lieu à des petites scènes qui sont carrément burlesques et très sympathiques dans cette ambiance plus méditative par ailleurs.
Il faut souligner que c'est aussi co-scénarisé par Sophie Filière, ce qui explique aussi qui a ce côté justement un peu d'humour absurde.
Ah d'accord. Eh ben, oui. Donc ça se voit, on a donc la spiritualité zen avec cet humour un peu burlesque qui est aussi assez commun au Japon, hein, dans les stamps ou dessins animés. Quoi.
Donc c'est à retrouver à Aubenas et à Orion cette semaine, Sidonie au Japon d'Élise Girard, et puis la semaine prochaine ce sera Auteuil. On change complètement d'univers, on va aussi un petit peu ailleurs.
پسر چی انتخاب کردین؟
دیوید.
باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید.
چرا؟
اشاعه فرهنگ بیگانه.
اصلا برفرض محال میگم و من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟
کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟
You're so beautiful, you don't like guys.
به کار ربطی داره؟
اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامتون
ببین اصلا فیلم نامه من نه نقد اجتماعیه نه نقد سیاسیه اصلا مسئله حجاب توش وجود نداره اصلا تو فیلم نامه من زن وجود
همه اینا
Les chroniques de Téhéran de Ali Asghari. Alors c'est difficile de goûter l'humour quand on ne comprend pas la langue et quand on ne voit pas les images.
L'humour, mais il n'y a pas que de l'humour.
Il n'y a pas que de l'humour.
Malheureusement. Ceci dit, qu'est-ce que c'est bon d'entendre un peu de persan de temps en temps. Oh, c'est vraiment une langue absolument magnifique. On pratique très peu. Voilà, si je vous dis que c'est un film où on voit des gens aller déclarer une naissance, demander un passeport, contester une contravention, aller acheter les nouveaux vêtements de sa fille pour la rentrée des classes, etc., etc., vous allez me dire, hein, bon, ça n'a pas grand intérêt ce film. Bah si, parce que ça se passe à Téhéran. Et que on s'aperçoit que la moindre démarche à Téhéran, c'est kafkaïen. C'est absolument kafkaïen et on se dit mais comment les gens peuvent vivre dans un univers comme ça. Alors en fait, c'est pas un film à sketch, mais ça pourrait presque, puisque ce sont ces 9 petites séquences, 9 courts-métrages en fait, où chaque court-métrage prend une situation de la vie quotidienne tout à fait banale et on va être confronté à ça. Donc on a toujours le demandeur ou la demandeuse, demanderesse, je sais pas, face à l'autre, alors qui peut être un commerçant, mais qui le plus souvent est un fonctionnaire, donc qui représente l'État. Et pour ça, le duo des deux réalisateurs, Ali Asghari et Alireza Kalami, ont mis en place un dispositif caméra fixe, plan séquence sur le demandeur. Et l'autre est systématiquement en retrait, on ne le voit pas, on n'entend que sa voix. Donc c'est une sorte d'impersonnalité totale et de mur auquel on se heurte comme ça. Et alors, c'est effectivement, c'est drôle. Il y a des moments, c'est drôle, mais en même temps, c'est révoltant, c'est glaçant, c'est tragique. C'est une espèce de perte du sens commun. Et ça a vraiment cet intérêt de montrer, alors ça se passe en Iran ici, mais comment un régime totalitaire contrôle tous les aspects personnels de la vie des individus, y compris les plus acheter une robe. Alors il y a la dernière scénette, par exemple, la dernière séquence, c'est un réalisateur qui va demander une autorisation de tournage. Oh, voilà. Je vous laisse imaginer un peu. Ça a été tourné en 7 jours, dans une semi-clandestinité, et les réalisateurs, d'ailleurs, pour protéger les comédiens les ont désinformés, c'est-à-dire que chaque comédien pensait tourner un petit court-métrage. Ce qui fait que quand le film a été présenté à Cannes, ils ont tous été convoqués, évidemment, et qu'est-ce qui s'est passé, les autres comédiens, etc. Mais personne ne savait, on dit « bah non, je vais tourner un court-métrage », voilà. Donc je pense que c'est à Privas, hein, cette semaine, c'est vraiment un film à voir, ça dure 1h15, c'est suffisant. Et ça montre comment on est obligé de vivre dans ce type de dictature.
Ça fait un peu penser à Taxi Téhéran, un peu, non le...
Oui, il y a quelque chose comme ça, mais c'est plus frontal encore, ouais, parce que dans Taxi Téhéran, voilà, la caméra bouge, on est dehors, il y a les rues, les gens râlent, les choses comme ça. Là, on ne peut pas râler en face, ou si on commence à râler un peu, bon, je vous laisse imaginer.
La robe, elle n'est pas achetée. Non.
Les chroniques de Téhéran, oui, c'est à voir à Privas. Est-ce que tu penses simplement que le dispositif là, des 9 petites histoires est aussi en partie lié, enfin, et pour contourner justement la réalisation d'un long métrage ?
Bien sûr, tout à fait. C'est parce que je crois que, alors je ne connais pas bien la législation iranienne, mais d'après ce que j'ai lu, j'ai l'impression que tourner des courts-métrages comme ça à l'arrache, là c'est facile, hein, c'est un bureau ou un magasin, une caméra et 2 comédiens, quoi. Et la personne à la caméra, la personne au son et les réalisateurs. Donc ça se fait un peu à l'arrache comme ça, on n'a pas besoin de demander même d'autorisation, alors qu'un long métrage c'est plus compliqué, même si Jafar Panahi nous a montré qu'on pouvait tourner des courts-métrages en dehors de la loi.
C'est
risque et péril, bien évidemment.
Les chroniques de Téhéran. Eh ben, on part encore ailleurs, dans un autre pays.
Vadouille.
Hey, qu'est-ce que vous faites là? Descendez de mon camion!
Monsieur, on y va!
J'appelle la police! Descendez de mon camion, putain d'imbécile!
Monsieur!
Des imbéciles!
Je suis un grasson! Imbécile!
Europe,
je moeder voor het laatst gezien? Ze is in Hollywood.
Ik kom snel terug. Beloofd.
Coole auto. Ik moet wel voor een paar terug zijn.
Niet vandaag, kiddo.
Ik moet op tijd thuis.
Après le persan, le néerlandais. Le jour où j'ai rencontré ma mère. Kido, le titre original de Zara Dwinger, qui avait été sélectionné par le prix des
jury Bouche de l'art.
Par le jury Bouche de l'art, voilà. Et qui est à voir à Aubenas. Et ben, c'est deux jeunes qui sont allés le voir. Non, mais c'est incroyable. Mathieu et Manon, vous êtes tous les deux.
Comme tu y vas. Il n'y a pas que qui. Sont jeunes là, ici.
Non, mais je n'ai pas dit à l'inverse. Je n'ai pas dit que les... C'est vrai que je n'ai pas souligné que deux autres jeunes avaient parlé des autres films. Qui veut en parler d'abord, Manon?
Ok, je commence un petit rappel de ce qui se passe et ce qui se raconte dans ce film. Donc c'est Lou qui a 11 ans, qui rêve de sa mère dans son lit de son foyer d'accueil. Celle-ci, dit-elle, est une célèbre cascadeuse à Hollywood. Sa mère vient enfin lui rendre visite et c'est un road trip qui commence en direction de la Pologne. Et très rapidement, il devient clair que sa mère, Karina, c'est tout ou rien, Kido. Loin de la figure idéalisée, sa mère se révèle dysfonctionnelle, au comportement parfois imprévisible. Et Lou est donc forcé à apprendre et à faire connaissance avec sa mère.
Alors, est-ce que tu es embarqué avec ces femmes ?
Plutôt, oui. C'est un road trip haut en couleurs. C'est un film extrêmement beau en termes de plans. Les images et les couleurs sont très saturées. Il y a une référence qui est en fil rouge du film au cartoon avec des bruitages. On l'a entendu dans la bande-annonce. Et je trouve que même juste au-delà de l'aspect technique très beau, il y a un message que je trouve assez intéressant qui est celui de la rencontre avec ses parents. Je pense que c'est un motif qui traverse la vie de chacun, de passer outre l'image idéalisée quand on est petit de ses parents pour apprendre à faire connaissance avec ses vrais parents, avec leurs tares, leurs défauts. Donc là, c'est particulièrement compliqué parce que la mère est particulièrement haute en couleur et compliquée. Donc je trouve que c'est à la fois un film philosophique et, je l'ai déjà dit, mais je le répète, très très beau en termes de couleurs, de plans.
Mathieu ?
C'est exactement ça. C'est ce que, en fait, ce film, Comment j'ai rencontré ma mère, c'est deux personnes qui souhaitent rencontrer leur mère, la fille et la mère dans ce road movie, et aussi sa propre mère qui va jusqu'en Pologne pour voir, sa mère. Du coup, c'est une histoire de mère et de grand-mère. C'est une famille qui pourrait se reconstruire au fur et à mesure de la route. Et on laissera le spectateur faire son avis sur est-ce qu'ils vont y arriver ou pas et de quelle manière. C'est un film qui m'a laissé... C'est une très agréable expérience. Mais directement, quand des personnages au cinéma m'embarquent sur la route, dans un road trip, j'en attends énormément. La route, pour moi, c'est une ligne infinie vers la rêverie, vers l'espoir, vers l'évolution psychologique, vers le fait de se perdre pour se retrouver. C'est quelque chose qui résonne très fort en moi. Et ce film, il prend beaucoup de chemin du road movie. Il y a beaucoup de références. D'ailleurs, on peut penser à Paris, Texas. J'avais oublié, on en avait parlé à la fin de la séance, mais avec d'autres films que je n'ai pas vus. Mais beaucoup de références. Comment ?
Thelma Louise, peut-être ?
Il y a peut-être, je n'ai pas vu, mais il me semble qu'il est revenu. En tout cas, c'est un film qui a beaucoup de références du cinéma. On parle quand même d'une mère fantasmée, soi-disant actrice d'Hollywood. Donc d'où les bruitages, cartoon du point de vue de l'enfant. Voilà, plein de points qui sont intéressants, mais que j'ai trouvé, c'est ce que j'en parlais en off tout à l'heure, j'ai trouvé ça, c'est pas que c'était too much, je trouvais que ça m'impactait pas, ça résonnait pas en moi, c'est comme une musique, c'est comme aimer du rock, du bon rock, écouter une musique de rock, mais c'est pas que c'est du déjà vu, mais que ok, ouais, c'est j'ai compris. Et
t'es resté alors, sur le bord de la route, quoi.
Oui, exactement. En tout cas, ils m'ont pas, bah ouais, ils m'ont pas embarqué en fait. Et pourtant, il y a des moments qui sont beaux, qui sont touchants. Hein. Je dis pas du tout le contraire. Allez voir ce film pour vous faire votre propre avis, parce que c'est important. Parce que s'il faut, ce jour-là, moi, j'étais pas dans le bon mood ou quoi. Hein. Ça peut arriver. Mais il y a un côté beaucoup. Il y a un côté, oui, un côté mystique de la route que j'aime retrouver dans les road movies. Juste le fait de partir et d'aller jusqu'en Pologne, c'est une histoire de famille qui essaie de se reconstruire, de rattraper le passé. C'est quelque chose qui aurait pu... je comprends le réalisateur, la réalisatrice, oui, la réalisatrice qui a pris ça du point de vue de l'enfant. C'est totalement... je comprends ce point de vue, mais je trouve que voilà, ça m'a un peu laissé sur le côté. Mais... Ouais. Mais c'est un film qui vaut le détour par son parti pris esthétique, qu'on adhère ou pas. Ce grain, ce format carré, c'est des partis pris. Et tout ça, il faut le comprendre parce que ça n'a pas été choisi pour rien. Donc oui, il faut, ça vaut le détour.
Ça vaut le détour et c'est à voir à Aubenas le jour où j'ai rencontré ma mère. Avant de chroniquer Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un petit mot sur le patrimoine affreux, oui. Sale et méchant qui ressort aussi à Privas.
À Privas, donc, et je le ressouligne, c'est vrai que le Vivarais de Privas fait quand même beaucoup d'efforts au niveau du patrimoine. Il y a très, très souvent des reprises, comme on dit, et souvent des très, très bonnes. Là, c'est Affreux, sale et méchant, donc un classique des classiques. Ettore Scola à la réalisation, Nino Manfredi en premier rôle. Ça date de 1976. Alors, en deux secondes, vraiment, ça se passe dans un bidonville au-dessus de Rome. On est dans une espèce de masure où vivent toute la famille de Jacinto. Ils doivent être à peu près 20 ou 20 ou 25. Voilà. Et Jacinto, qui est le patriarche, a perdu un œil dans un accident. Et il a touché 1 million de lire, et il passe sa vie à cacher son magot, à oublier où il l'a caché, et toute la famille passe sa vie à essayer de le trouver. Et tout ça va dégénérer, enfin, c'est vraiment affreux, sale et méchant. C'est une des dernières comédies de l'âge d'or de la comédie italienne, probablement la plus noire et la plus caustique, parce que On rit noir, on rit jaune. Et je recommande particulièrement la séquence d'ouverture et la séquence finale, qui sont comme des espèces de parenthèses comme ça, qui sont d'une beauté et d'une tristesse à pleurer. C'est pas du tout politiquement correct. On en parlait tout à l'heure un peu hors micro. Ce genre de film qui serait totalement impossible à produire aujourd'hui. Alors, à redécouvrir ou à découvrir.
Affreux, sale et méchant à Privas cette semaine. Allez, dernier film qui nous emmène au Québec.
Je vis une situation délicate qui m'oblige à faire du mal. Le problème, c'est que si je le fais pas, je meurs.
T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider.
Non, merci, j'ai pas faim.
Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
Tes parents sont pas un buffet. Tes dents sont sorties, t'es capable.
Mes parents ne sont pas un buffet. Eh bien oui, mes parents ne sont pas un buffet. Mais je ne sais pas, Didier.
Voilà, c'est exactement comme le titre, hein, qui est très très bien choisi. Donc c'est un premier long métrage d'une jeune réalisatrice québécoise qui s'appelle, ça s'invente pas, Ariane Louis XVI. Mmh. Donc elle a fait déjà 5 courts métrages et ses personnages principaux sont 2 ados. Le premier est Paul, qui est 15-16 ans, qui est un ado solitaire, un peu harcelé dans son établissement scolaire et qui a des tendances dépressives et suicidaires. Et l'autre est Sacha, donc jeune vampire qu'on a entendu dans le film annonce, qui est trop humaniste pour tuer les gens, au grand dam de sa famille, qui en a marre de trouver des subterfuges pour la nourrir, sans compter qu'elle va jamais chasser, quoi, et que vraiment ça commence à bien faire, les ados, c'est bon, hein, il va falloir... Donc ça mélange le film de vampire, la comédie, le récit initiatique. c'est quand même avant tout une histoire d'ado. Hein. C'est vraiment un récit initiatique sur comment on essaie de grandir ou pas. C'est une espèce d'unité de temps, puisque ça se passe sur une nuit, donc une sorte d'errance. Alors, c'est pas un road movie, hein, mais un road pédestre, peut-être, dans le Québec contemporain. C'est une comédie, en même temps, c'est une comédie romantique, très très originale, drôle, poétique, avec des passages très mélancoliques, et ça aborde à la fois, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un film sur les ados, la sexualité, la pression familiale, l'incompréhension évidemment, le malaise adolescent, le féminisme, le rapport à la mort. Donc c'est pas un film uniquement drôle et léger comme ça. Je trouve que c'est vraiment un film très très intéressant, et je terminerai par un mauvais jeu de mots en disant que ça apporte du sang neuf au genre du film de vampire.
Est-ce que c'est sous-titré?
Oui, sur certains. Oui, sur. Alors, le Sacha parle à peu d'accent, comme on a pu l'entendre, sa famille un peu plus. Quoi. C'est des vampires un peu plus anciens.
Mais, parce que sans sous-titrage, des fois, c'est problématique. Surtout que nous, c'est plus Louis XVI, hein, c'est Macron. Hein.
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, donc c'est Auteuil, et a souligné samedi justement une soirée spéciale cinéma et Québec dans le cadre du festival Fureur d'avril auquel le cinéma participe, avec en premier film Starbuck à 17h30, une comédie décalée aussi.
C'est le culte, hein, Starbuck.
Ouais. Donc à revoir au cinéma à 17h30 samedi, Auteuil, en version québécoise sous-titrée en français. Et puis il y aura un petit intermède. Alors je dis toujours parce que ça ne gâche rien au plaisir, avec des petites grignotines québécoises. Et puis à 20h30, le film dont on vient de parler, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, là aussi ce sera sous-titré en français. Tarif 8 euros pour les deux films. Voilà, c'est dit, toutes les infos pratiques. Il nous reste
le petit à côté, puisqu'on parle de vampires, juste pour signaler que la médiathèque d'Aubenas a fait l'acquisition des trois coffrets des films les plus mythiques de la Hammer, où on retrouve tous les Dracula des années 60 avec Christopher Lee et d'autres. Donc c'est très joli présenté, il y a les affiches des films, il y a des bonus intéressants. Donc pour les nostalgiques de cet âge d'or, n'hésitez pas.
Ouais, super coffret, ouais. Effectivement, avec un très beau livret que j'avais emprunté, justement.
Tout.
Ouais. Pour la rétrospective de la. Enfin, il y avait deux films aux dernières rencontres du cinéma d'Europe.
Exact.
Justement.
Oui,
et nous en avions parlé. Oui. On avait interviewé.
Tout à fait. C'est une promotion pour le don du sang. On manque un peu de.
C'est vrai. Merci, tu fais bien de le dire. Ouais. Quelles sont les prochaines dates?
Or, j'ai oublié.
On ne sait pas. Bon, c'est
parce
pas
que je suis trop jeune, trop. Tu vois, pour en donner mon sang.
Non, je ne sais plus. De quoi parlions-nous?
Je ne sais plus.
Ah, mais moi non plus. Il faut quelqu'un pour terminer cette émission. Non. Alors, des jeunes, justement des vrais jeunes du 109. Non, un dernier, si vous voulez, un dernier conseil. Non, pas de dernier conseil.
Non, déjà, ça fait beaucoup de choses pour les gens à voir. Donc, allez voir Affreux, sale et méchant, voilà, surtout.
À Priva. Merci beaucoup à toutes et tous. On se retrouve vendredi. Alors, ce ne sera pas Sylvain à la réalisation, mais on te souhaite, Sylvain, de très bonnes vacances.
Merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve probablement la semaine prochaine, un de ces jours. Merci beaucoup et bon cinéma d'ici là.
Salut.
Voilà.